Il est bienvenu avec Leïla Kadour-Boudaldi, Morgane Gadignan. Mais quoi? Mais non.
Mais où?
Mais c'est pas vrai.
Mais qu'est-ce que c'est?
C'est Marie Laurent.
Tanguy Bassureau, Daniel Morin. On s'en fout, mais alors vous là. Mais je suis tellement heureux de voir Marina. Et Valérie Damidot est notre invité. Déjà, on va prendre des nouvelles de notre copine. Marina, comment ça va?
Mais ça va, cette vie de tournée, de d'Ibi Style
cette vie
en
de star.
Ah, de gloire, c'est de fou. Gloire.
Ce triomphe.
Ah, on m'acclame de Saverne à Vissembourg. Ouais,
au point qu'il y a une date supplémentaire au paradis latin.
Absolument, le 19 décembre. Et absolument, voilà. C'est la toute dernière
après
date.
Trois
très belle
jours,
salle.
Après trois jours d'Olympia.
Ouais. C'est un week-end, ah, c'est le 19, non?
Oui, c'est le dimanche.
D'accord, donc c'est en matinée ou c'est quand même 20h30?
Il y a deux séances, une à 16h, une à 20h.
L'incroyable.
On se fait plaisir, le paradis.
C'est pas qu'elle est incroyable, elle est rentable surtout. C'est la même en une journée.
Enfin, elle est quand même à la première, après elle sera fatiguée.
La présence de Valérie Damidot avec son nouveau magazine qui s'appelle Damidéco. Valérie Damidot, la déco. Qu'est-ce que je fais comme blind test?
Franchement, les onomatopées.
Ah oui, Damidéco.
Non, Dami, non, un truc sur l'amitié.
Damidéco. Alors, sur la déco, j'ai essayé.
Sur les Valérie.
Sur les Valérie.
Sur les salons. La manière de faire les murs, le placoplat.
Le marouflage.
Qui chante ça?
Tanguy.
Leïla.
Docteur Dre.
Oui.
Ah.
Donc on est sur le D. On est juste sur le D.
On est sur le D.
Ah, sur le D, d'accord.
Non. Exactement.
Non. Jean Dassin. Ah, ça va être compliqué.
Qui ça?
Morgane.
Oui.
James.
Joli.
Oh, ouais.
Me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime, mais j'emmerde ma rime. Juste parce que ça fait zizir. Comme un goût de pâte. Comme un coup d'un capot, comme un
coup de
marteau. Dans les écoles, y'a comme un goût de foulette sur les mots. Comme un coup de poulette sur les
mots. Attention, je sens ça va aller très vite. Qui chante ça?
Daniel.
Daniel.
Dalida.
Non.
Tu t'es fait voler, Dalida. Dalida par Daniel.
Elle vit en moi, personne ne peut me la voler.
C'est moi danser, chanter en liberté.
Les gens n'ont pas
l'image,
mais
ils
l'ont
déjà
quitté.
Non, ils en sont malheureusement.
Oh, c'est pas mal.
Qui chante ça?
Tanguy?
Oui.
Non, pardon.
Morgane?
Si, si.
David Guetta?
Oui.
Ah oui, donc ça pouvait pas être moi.
J'aurais accepté Sia aussi.
Ouais.
C'est fou les clips.
Non, on n'entend plus personne qui chante là.
Non.
C'est le sport.
Peut-être, tiens, dans le même esprit, un DJ, s'il avait le tempo, aurait enchaîné avec...
Leïla.
Oui.
Daft Punk.
Extrêmement rapide. En plus, j'ai voulu prendre... Enfin, c'est pas moi, c'est Alicia.
On a dansé là-dessus pendant des années.
La version remix, pour que ce soit plus long en intro. Bien joué. Il y a quand même des dés qui ont...
Daniel.
Ah.
David Bowie.
Ouais. Ah, mais attendez.
Ashes to Ashes. Ah, moi j'ai annoncé là. Je vous laisse jouer.
David Bowie, t'aimes pas?
Si, j'adore.
Il est déjà parti presque.
Ouais.
Attention, tout se joue sur le dernier titre. 2 points pour Morgane, 2 points pour Daniel, 2 pour Leïla. Ça rapporte 3 points donc la victoire. Qui chante ça?
Daniel. Dépêche Mode.
Bravo.
Avec un dé, avec la mode, pour accueillir Valérie Damidot, yes. Victoire de Daniel Morin, et merci d'accueillir Valérie Damidot.
La bande originale.
Nous l'embrasse tous derrière un masque.
Avec
tellement la classe, elle est venue déguisée en France Inter.
Exactement, je me suis dit j'essaie toujours de mettre mes codes couleurs avec les gens qui me reçoivent.
Fou. Non, mais là, t'es carrément fondu dans le décor.
Ouais, mais c'est fait pour.
L'antenne, on voit que ta tête.
Et Valérie Damidot fondu dans le décor, la phrase pouvait pas être mieux trouvée pour cette déco malin.
C'est sûr.
Fondu deux déco alors?
Ouais, deux.
Ok, d'accord. Ah, ouais. On est dans le jugement, très bien.
Comment on comprend le montage.
On est fondu dans le jugement.
Ce nouveau magazine Damidéco, c'est un trimestriel qui est à moins de 5 euros, qui est tiré à 100 000 exemplaires. Écoute, allez, courage.
Heureusement qu'on est vendredi.
Surtout qu'on est au mois de juin.
C'est ça qui nous sauve.
Bientôt les vacances.
Fin de saison. fin de saison. Vous ouvrez Valérie Damidot par cet édito en disant le cri ou l'appel de la maroufle.
Yes.
Vous a poussé à acheter ce magazine. Pour en revenir à ce marouflage et à ce cri-là, quelle est la nuance entre tapissé et marouflé ?
Marouflé, c'est quand tu as tapissé, tu maroufles. Ouais. C'est-à-dire que tu poses ton papier peint, il y a toujours des bulles d'air. Toujours. Et donc, tu maroufles, ça veut dire chasser les bulles d'air.
Ah, je croyais que c'était une colle, moi, la maroufle.
Non. Ah non, Jérôme, c'est une technique pour dégager les bulles d'air qui sont sous ta tapisserie. Donc.
C'est un geste merveilleux, le marouflage.
C'est hyper satisfaisant.
Ouais. Non, mais attends, moi, ce que je faisais, c'est qu'avec une...
Tu piques,
oui. Tu crèves la bulle.
Tu perces.
Quoi ?
C'est pas propre, quoi.
Mais ça, c'est ton côté tortionnaire.
Non, mais
c'est
mon côté, j'ai pas le temps.
Il m'a rouflé sans le savoir à la main, en fait. Il m'a rouflé déjà un peu à la main.
C'est ça.
Voilà. Il se frotte contre le mur,
mec. Si tu savais le nombre de choses que j'ai faites sans savoir avec les mains. Le magazine Déco Malin, comment est venue l'idée de ce magazine ? Parce que pour l'anecdote, en fait, les stars qui font des magazines, on en a eu beaucoup dans les années 70 avec Claude François qui avait son journal, qui avait Podium, Sardou qui avait son journal. Aussi.
Sophie d'avant.
Alors là, c'est plus récent. Voilà, c'est que maintenant, ce sont.
Sophie d'avant, c'est plus récent.
Les stars ont leur magazine, mais ils étaient un peu généralistes, j'allais dire. C'était juste Podium, je lis Podium, mais c'était sur la chanson. Il y avait des autocollants, des posters, des trucs comme ça. Là, c'est très précis. En plus d'être un magazine, vous en êtes la rédactrice en chef et vous êtes de toutes les pages. Ouais, c'est ça.
Non, écoute, je voulais faire des posters à l'intérieur de moi.
Il y a des caricatures.
De
Roxane.
De ma fille, oui, sinon c'est pas drôle. Écoute, c'est Reworld Media, qui est l'éditeur, qui m'ont proposé ce magazine. À l'époque de Déco, il y a moult années, plein de fois, il a été question de faire un magazine. Ça ne s'est jamais fait. Donc, je suis ravie qu'ils aient pensé à moi pour faire un magazine de Déco.
Il y avait un mais à l'époque ou pas?
Il y avait... Non, je sais pas ce qui s'est passé à l'époque. Okay. On n'a jamais réussi. Il y a eu plein de projets, je sais pas. Bon, bah là, en tout cas, on l'a fait. Et puis, on a vachement bossé ensemble. Moi, j'écris avec eux. Ils ont pris des... On a vachement travaillé avec ma chaîne YouTube, aimé les tutos, etc. C'est plutôt une équipe sympathique.
Il y a un site internet aussi, les vidéos, et qui va plus loin que le magazine en lui-même. Dans ce premier numéro, donc, il y en aura quoi, 4 par an ?
4 par an,
on est d'accord ? Premier numéro d'hiver 21-22.
Puis ça suit les saisons.
C'est pas loin. Ouais. Ça fait pas loin. C'est
bien.
Tout ça grâce à Vivaldi quand même. Faut quand même lui rendre cet hommage. La cuisine est la première pièce qui est décortiquée parce que c'est la plus importante dans une maison.
C'est exactement celle où les Français dépensent le plus d'argent, figure-toi. C'est-à-dire que c'est quand
j'ai l'impression que c'est l'endroit où qu'on change le moins dans une maison de cuisine.
Et justement, c'est pour
une
ça.
Une fois qu'elle est faite.
Une fois qu'elle est faite, vu que c'est là où t'as dépensé le plus d'argent, normalement, c'est le truc que tu refais pas vite. Mais c'est là où les Français ont le plus envie de dépenser l'argent.
D'accord. Donc, et quelle est la durée de vie en moyenne d'une cuisine?
C'est 10 ans. Avant, c'était parents, mes parents, nos parents, c'était à vie. T'achetais la cuisine en bois massif, magnifique. Qui durait 47 000 ans, j'ai passé 10 ans à repeindre toutes ces cuisines de vieux dans Déco. Maintenant, c'est 10 ans, c'est pas mal.
Alors justement, quelle est la nuance et quelle est la frontière entre on retape quelque chose qui existe déjà ou alors on chine et on achète d'autres choses qui viennent de l'extérieur? Autrement dit, est-ce que l'idée du magazine est de renouveler ce que l'on a déjà en lui donnant une deuxième vie? Ou de l'offrir, de le donner, de le vendre, que sais-je, d'occasion, et d'en acheter d'autres.
Nous, on est plutôt sur... c'est vraiment le truc dont on a parlé en premier. Moi, je veux que le magazine, ça soit un truc où tout le monde s'y retrouve. Et quand t'as pas d'argent et que tu veux faire de la déco, tu t'es des bonnes idées. Parce que la déco, c'est magnifique. Il y a pas que moi, je suis pas le premier magazine de déco. Il y a des pages qui te font rêver. Mais moi, j'ai envie que les gens, ils achètent des trucs dans des endroits pas chers. Mais surtout, qu'ils apprennent à consommer différemment. Je trouve que tu peux totalement relooker. Alors là, en l'occurrence, la cuisine, c'est vraiment la pièce que tu peux le plus relooker. J'ai envie qu'on achète intelligent, c'est-à-dire dans des vide-greniers, dans des brocantes, qu'on retape ses propres objets. J'ai envie qu'on apprenne à recycler les choses. C'est-à-dire que
est-ce que tout le monde en est capable? Parce que l'histoire du pneu sur lequel on met une plaque de contreplaqué et puis qu'on entoure de cordes pour en faire un pouf,
Ouais, celui-là, j'ai lu deux étapes et je me suis dit, ok, c'est super, mais c'est ça sera
injouable.
Sans moi, quoi.
Alors,
c'est injouable. C'est pas injouable, mais si tu commences par là, évidemment, tu vas être déçu.
Non, moi, je commence par la couronne. La couronne avec les boules.
Ça, c'est super facile.
Un cintre, des boules et on est parti.
Voilà, un cintre et des boules. Ça, c'est un d'une belle soirée.
Tu fais, on l'a toujours dit. Tu occupes tes soirées comme tu veux, Leïla.
Mais c'est un super slogan. Leïla, un cintre et des boules, 2022, votez pour moi.
On va continuer de parler avec Valérie D'Amido. Nous, on est ravis d'accueillir Valérie. Ce n'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Voici Morgane Cadignan. Et elle ne t'aime pas, Morgane.
Eh ben, c'est super.
Saleté, hein.
Valérie D'Amido, je vous aime pas, mais on peut le dire, c'est vous qui avez apporté la folie de la décoration en France avec D&Co à l'époque, de la même manière que Top Chef pour la cuisine. La décoration est enfin devenue un loisir accessible à tous. Parce que
t'arrives
pour moi.
Tu relire ou pas, non?
Parce que pour moi, avant, la déco, c'était dans le L Déco ou dans le Marie-Claire Maison. Et
c'est vrai.
Oh, ils sont jolis, ces coussins qui coûtent le prix d'un mariage en Suisse. Je vais les prendre, mais comme on peut plus acheter de canapé, on va les poser par terre. On n'a plus de lit non plus. Hein, pas de lit depuis qu'on a commandé une couette chez Roche-Beaubois. Enfin, une couette, c'est un tigre du Bengale, on a juste à se glisser dedans. C'est pour ça que c'est si cher. 9 ans d'émission de 2006 à 2015, c'est énorme. C'est pour dire à quel point les Français avaient des intérieurs dégueulasses. Moi, je regardais ça à l'époque où je vivais encore avec ma mère. Et c'est pas que c'est mal décoré, mais c'est décoré bah, comme chez des parents, quoi. Un rebord de cheminée, mes enfants, on dirait une boutique de souvenirs d'aéroport, mais pas un grand aéroport classe, un aérogare de province. Et vas-y, les petits éléphants en bois, et allez, le petit jardin zen japonais qui est là depuis tellement d'années qu'on dirait une litière. Après toi, le porte-bougie en fer forgé d'inspiration marocaine tellement moche que tu deviens un peu raciste en le regardant. Ah, et puis une fois qu'il passe à la retraite, mais bonjour chez vous, ça devient la teuf du bois flotté. 3 balades sur la plage de la Baule, un bout de ficelle, et on se sent capable de faire descendre de table soi-même, c'est dégueulasse, Karine. Puis ma mère, en termes de déco, c'est pas possible. On n'a pas du tout les mêmes goûts, maman. Je sais que tu m'écoutes, je t'aime, mais sa déco, ça sent quelqu'un qui va craquer, quoi. Ça, franchement, tu rentres chez quelqu'un qui va bientôt tirer en l'air dans un supermarché. Elle a accroché. Écoutez, elle a accroché une tonne de carillons, mais à l'intérieur, et ils sont accrochés trop bas, donc tu te les prends en permanence, et tu peux pas faire une entrée discrète dans une pièce sans avoir les grandes orgues de Jiffy qui t'annoncent. Et par respect parental, maman, je développerai pas sur l'écran faux feu de cheminée que tu as disposé devant la vraie cheminée. Pourquoi? Et je l'ai beaucoup suivi cette émission quand tu entendais cette musique. Tu savais qu'il y avait une mère de famille en passe de pas reconnaître son salon, quoi. Ouah, mais qui l'eût cru que le velours au plafond, ça rétrécissait la pièce. Vous voyez le... Non, mais vous arriviez à voir le potentiel que les gens y voyaient pas chez eux et ça améliorait leur vie parce que tu peux pas être heureux dans un endroit moche. C'est vrai, je suis sûre que vous avez sauvé une tonne de mariages avec du rotin bien placé.
Titre.
Ça a pas été compliqué pour moi de suivre l'émission. J'étais une cible facile. J'ai une passion décoration depuis assez longtemps. Mon truc, c'est de transformer mon appart en maison designer avec un budget de 63 euros. Du coup, j'avais l'air richissime parce que plus c'est épuré, plus c'est classe. Plus ton appartement, il ressemble à un Apple Store, plus ça veut dire que t'es blindé de thunes. Faut juste un gros livre de Mario Testino posé sur la table et c'est tout. À la limite, t'as le droit à une chaise de designer inconfortable pour faire la sieste, mais au-delà de deux tapis moelleux, t'es clairement en cartel à CGT. Valérie, aujourd'hui, vous sortez un magazine accessible à tous, donc plus d'excuses pour que ça soit dégueu chez vous. Et si jamais vous avez un doute, il y a 9 ans de replay à choper. Et si avec ça, c'est encore moche, bah vous avez qu'à déménager chez Madarone.
Merci, mon gars.
Et Morgane est au Métropole du jeudi au samedi à 20h, c'est à Paris.
Et à justement, quels sont, Leïla, tes rapports à la déco, toi? Est-ce que tu es dans le genre, faites-le vous-même, pour traduire le do it yourself?
Je me suis essayé, j'ai rapidement arrêté de faire des trucs moi-même, vraiment. Et moi, je suis pour les espaces épurés, c'est-à-dire moins il y en a et mieux je me porte.
D'accord,
en fait, vraiment.
Marina, Holman?
Chin, beaucoup de chin chez Marina. Ouais.
Non, mais chin, ça veut dire que tu fais les puces, les brocantes.
Les puces, les brocantes, les vide-greniers et okay, aussi des puces en ligne.
Est-ce que tu retapes ou est-ce que tu chines un truc tout fait?
On peut faire un petit enduit, on peut faire un petit truc, un petit enduit, un petit coup de chiffon, mais on refait pas un canage soi-même, on refait pas de peinture, je vais
être
honnête.
Petit canage.
D'accord. Non, mais elle est honnête, Daniel, moi.
Moi, il n'y a rien.
Daniel, si, tu adores la déco, on peut le dire.
On peut le dire. Je suis un fan de déco.
Ah.
Oui, chez moi, c'est vraiment... C'est dans certains magazines. À l'étranger.
Interdit aux mineurs.
Interdit aux mineurs, complètement.
Parce que l'idée
Et toi, la déco
c'est, je ne suis pas très bon. Je suis pas très bon. J'ai essayé. Non, les peintures, les patines. Je me suis amusé à poncer quelques meubles en me disant oui, mais c'est ça. Il y a un truc qui s'appelle le bon goût à un moment donné et c'est pas fait.
On l'a pas tous. Hein,
je me suis reconnu malheureusement dans les quelques bougies marocaines qui traînent. Le bois flotté, mais on était venu chez moi ou quoi?
Tu dormais.
Mais tellement. c'est vrai que tu ramasses des bouts de bois sur la plage, je dis mais ça va être génial, je vais faire un truc dingue.
Les grands pots transparents avec du sable. Pourquoi?
Ah ça oui, ça, je demande pourquoi. Ah,
avec des guirlandes lumineuses dedans.
Ouais, oui. Allez. Pourquoi?
Alors, il y a un truc qui est très tendance, c'est les petits jardins sous cloche. Il y en a même dans votre magazine.
Oui, bien sûr, c'est hyper tendance, les petits jardins sous cloche.
Ça, par contre, ça se fabrique pas. Ça.
Ah non, ça se fabrique pas, je te conseille même pas d'essayer.
D'accord. Mais donc la notion de faites-le vous-même, c'est dans l'idée, encore une fois, que ça coûte le moins cher possible. On est d'accord, ouais. Le point de base, et d'ailleurs l'argent est présent, mais plus en termes de conseils pour ne pas dépenser trop.
Ouais.
Ce qui motive le plus la décoration, c'est quoi? C'est d'éclaircir, d'agrandir, de changer. Quels sont les points importants pour vous dans l'idée de décorer un appartement?
D'être chez soi, en fait. Le truc que longtemps on a dit aux gens, on les a culpabilisés en disant « Ouais, ta déco, c'est de la merde. » Ouais, mais moi, j'aime bien. Moi, il y a des tas de gens chez qui on allait, on leur disait « Waouh !» C'est ben ouais, mais moi j'aime beaucoup les friseux avec les dauphins. Ah d'accord, Jacqueline. Le truc, c'est d'être vraiment chez toi. C'est-à-dire qu'il faut pas essayer de ressembler à ce qu'il y a dans les magazines. Si t'as 5 enfants, non, tu vas pas acheter un canapé en lin blanc. Ça, c'est une certitude. Ouais. Si t'as des chiens, des animaux, bah non plus. Hein. Donc, il faut que ça te ressemble. Il faut que tu aimes ça. Donc, l'idée, c'est vraiment pas d'essayer de copier des magazines hors de prix. L'idée, c'est vraiment de te dire, ok, c'est quoi mes couleurs? C'est quoi ma vie? C'est quoi ce que j'ai envie de vivre? Eh ben, je vais le faire. Si c'est un mur jaune, citron, avec des rayures rouges, lance-toi.
Donc il n'y a pas de jugement sur le bon et le mauvais goût.
Franchement, je trouve que le bon et le mauvais goût, ça veut dire quoi en fait? Par exemple, même dans la vie en général, toi tu vas pas craquer sur les mêmes mecs que moi ou Leïla ou Marina.
Sur le mauvais goût, t'as failli me montrer, on est d'accord.
Non, je dis par exemple dans la vie. Bien sûr que non, mais en fait, t'es toujours chez toi, c'est toujours le mauvais goût de quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Bien sûr.
C'est pas. Moi, j'ai jamais. Il y a des trucs de base qu'il faut pas faire, comme laisser ça. Il y en a chez je ne sais pas combien de millions de Français, l'ampoule qui pend au milieu d'une pièce.
Ah, c'est qu'on n'a pas encore eu le temps d'acheter l'applique.
Ouais, mais ça ne viendra jamais.
Juste la douille.
Ouais, tu sais, genre avec l'ampoule et puis il n'y a rien.
Alors, c'est Valérie Damido qui a justement en déco une énorme ampoule avec une douille apparente dans l'entrée de sa maison.
Ah oui, mais ça, c'est pas un truc qui pendouille,
non.
Tu vois.
Elle fait 1 mètre cube, voilà. cette ampoule. Ouais, c'est,
mais
elle est belle.
Tu te dis, mais non, pas ça. Tu vois. Après, il y a des couleurs plus sympas que d'autres. Pour dormir,
est-ce qu'il y a des tendances? Parce que quand on entend qu'une cuisine, en moyenne maintenant, les Français, en fonction du budget, essayent de changer tous les 10-15 ans de cuisine, ce qui coûte un bras quand on change la cuisine, parce qu'on change pas qu'une partie. Par contre, la refaire soi-même, c'est-à-dire, je sais pas...
Changer les poignées, tu peux juste changer si t'as vraiment envie.
Portes.
Les portes, tu les repeins, tu mets des suspensions, tu peux changer l'électroménager qui ça, malheureusement, tu ne peux pas faire un four toi-même. J'aimerais, mais non. Mais effectivement, les cuisines aujourd'hui, si tu veux vraiment les changer comme ça, c'est la peinture, la résine, le béton ciré, les poignées, le sol, les suspensions, c'est quand même...
Il y a un truc qui est remarquable dans le magazine, il y a beaucoup de avant-après. Soit des appartements vides à décorer, soit une ancienne, entre guillemets, cuisine, et qu'est-ce qu'elle donne. Et généralement, on va vers une sorte d'éclaircissement en termes de couleurs, acidulée, le vert jaune.
Bah là, il y a beaucoup de pastel.
Ou c'est la tendance du moment?
C'est la tendance du moment, le pastel.
D'accord.
Qui, moi, m'emmerde. Hein. Le pastel me fait chier, en fait.
C'est vrai?
Bien sûr.
Qui aime
le pastel? Bah parce que c'est le truc que tout le monde veut. Qui aime le pastel? Pas moi, en tout cas. Mais les gens ont envie, de douceur, de petites layettes, de petits trucs. Après, on a quand même des couleurs un peu plus soutenues qui sont...
Il y a le kaki.
Tu vois, il y a le kaki qui est là, qui est quand même une super
couleur. Le kaki, j'ai vu. Oui, justement, moi, le kaki. Mais le kaki, j'en ai pas envie. Le chocolat, oui, je veux bien.
Chocolat,
kaki, c'est dur, je suis sûr.
Si t'aimes pas.
Un je fais pas. C'est gentil.
Mais du chocolat, on
s'en fout. Non, il y avait. Alors, c'est vrai qu'il y a des couleurs comme ça, comme le bleu canard qui était très tendance.
Le bleu canard qui a été. Oui, le bleu canard, c'est super. Oui, c'est super, mais pas toute ta vie, en fait.
C'est marrant parce qu'on en a vu dans beaucoup de séries, d'ailleurs. Il y avait des décors de films qui étaient. Il y avait du bleu canard, mais dans
partout.
Dans toutes les pièces.
Avec du laiton, bien sûr, évidemment. Ça a été très vite remplacé par le vert émeraude, le vert profond, le vert forêt.
Mais ça, honnêtement, Valérie Damido, est-ce que c'est pas, je sais pas qui décide des tendances d'ailleurs, s'il y a des influenceurs, des cahiers de tendances qui sortent régulièrement, mais tout ça n'est pas fait pour simplement nous pousser à être, pour être à la mode, à consommer, à refaire, à acheter et à commander des choses.
Un peu que si quand même, monsieur, c'est tout ça. Après, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment savoir ce que t'aimes. C'est-à-dire que si tous les 3 ans, d'un seul coup, il y a une nouvelle couleur, mon salon bleu canard doit être maintenant kaki et chocolat. Oh putain. Non, en fait, essaye de trouver les couleurs que tu vas aimer, et puis après, tu mets des petites touches. Le bleu canard est à la mode, et t'as envie d'avoir un petit truc. Eh ben, achète-toi un beau plaid, 2 coussins, puis laisse ton mur beige derrière. T'aimes le vert, et puis
un rideau,
tu vois, t'essayes de... Moi, j'essaie de toujours expliquer aux gens que ça sert à rien de suivre les tendances.
Alors, est-ce qu'il y a une part de quoi, de psychanalyse dans la déco chez quelqu'un?
Ouais, bien sûr. Quand tu vas chez quelqu'un, tu regardes sa déco... Quand tu commences un petit peu à le connaître, quand
tu comprends
des petits trucs.
On comprend quoi?
Tu comprends sa façon de vivre, tu comprends.
Je me souviens de Clémentine Sellarié qui nous racontait qu'elle aimait le bordel. Et même elle organisait avant de recevoir des amis pour que ce soit bien fouillé, bien n'importe quoi, pour que les amis arrivent en disant mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir dans cette maison? Et elle en faisait presque une originalité dans sa manière de vivre. Est-ce que par exemple le côté extrêmement rangé, cartésien, pragmatique veut dire que le caractère.
C'est compliqué, c'est-à-dire que si chez toi c'est comme une salle de musée, j'en connais plein, hein, des
gens, tu vas chez eux, c'est épuré comme chez Leïla, tout est vide.
Soit épuré, soit tout est rangé au cordeau, c'est-à-dire il n'y a rien qui traîne.
Ça veut dire quoi?
C'est compliqué, ça veut dire que tu t'autorises pas beaucoup de...
Mais non, ça veut dire aussi que t'aimes bien que ça soit rangé. Hein.
Non mais attends,
tu vois que c'est compliqué.
Il y a rangé, il y a rangé et il y a au cordeau.
Oui, non, c'est pas au cordeau.
Leïla, c'est rangé, épuré, mais c'est pas rigoureux, militaire, triste.
Ah oui, non, mais ça c'est, moi j'aime bien aussi.
Il paraît que chez les Hitler, c'était impeccable.
Chez Morgane...
Moi, j'avoue que j'aime bien quand c'est rangé. Mais ça me fait plaisir. Mais je sais que je suis tarée, mais il n'y a pas une tasse qui traîne. Quoi.
Et en Suisse, Marina Rollman?
Ah non, moi je suis un monstre de bordel. Je suis très maximaliste dans la décoration, dans la vie. Il faut qu'il y ait des affaires partout. C'est propre, hein, mais j'aime bien qu'il y ait plein de vie. Enfin, t'es venu chez moi, il y a des bidules, quoi.
Mais c'est comme.
C'est des jolies bidules.
On voit des intérieurs, d'ailleurs. Votre propre maison est prise en photo aussi dans le journal. Robbie Williams aussi. Alors lui, il y a.
Très belle maison, Robbie Williams.
Alors je n'irai pas jusque-là.
Non, mais je veux dire, on est quand même sur de la demeure. On n'est pas sur. On n'est pas sur un pavillon Catherine Mamet, quoi.
Non, mais là, c'est juste une question de. C'est juste une question d'argent.
Dans les choix
de déco, le gars, il a 4 mètres de hauteur de plafond.
Beaucoup de choses en pire.
Et c'est ça. Et tous les centimètres carrés, il y a quelque chose au mur, ce qui devient un peu, je trouve, moi, oppressant.
Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment avoir... Alors, tu parlais des bibelots sur la cheminée de ta mère, mais t'as des gens... Moi, j'en fais partie. J'aime les objets. Donc, c'est vrai que je collectionne beaucoup d'objets. J'aime les objets. Alors, je suis pas en train d'acheter du bois flotté ou de le ramasser sur la plage, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'objets. Donc, mais t'as des gens qui ne supportent pas. Donc,
d'accord.
Ils ont un vase. Un cadre.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que un grand mur avec juste une
photo.
Une belle photo.
Ah ouais.
C'est joli.
Et c'est très beau.
Là, le problème, c'est qu'on a l'impression d'être dans un musée, justement, chez Robbie Williams, et c'est tellement blindé de cadres que.
Tu vois plus rien, en fait, tu les vois plus.
D'accord.
Après, ça a été très tendance, ça allait encore un peu, de mettre des pêle-mêle de photos comme ça.
Ouais, le mur de cadre.
Exactement, le mur de cadre avec des cadres différents, des mettraies noir et blanc, tu vois, un peu arty.
Et quels sont les moments, puisqu'il y a une part psychanalytique dans la déco, quels sont les moments dans la vie où on refait une déco? Est-ce que c'est au moment d'un déménagement, d'une
séparation.
D'une séparation,
ça, j'allais le dire.
Ah bon, ok, d'accord, on va vous laisser. Non mais blague à part, c'est ça.
Ouais, généralement...
T'as vu, j'ai d'abord pensé à naissance.
Alors, une naissance, c'est tu changes la chambre du bébé, mais t'es normalement, à part aménager un parc, enfin une prison en bois, là, dans le salon. C'est tout ce que tu fais.
Il refait la déco tout seul.
Ouais, ouais, voilà. De toute façon, tes canapés vont être foutus. Voilà. Hein, donc voilà.
C'est clair. Non, c'est quand tu te sépares. Une naissance, en tout cas, une première naissance implique une nouvelle pièce. Ouais. Il faut sans doute déménager, trouver une chambre pour l'enfant et ainsi de suite.
Soit tu déménages, soit si t'as pas les moyens de déménager, parce qu'à Paris, il faut quand même.
C'est clair. Tu mets un paravent.
Ou alors tu vends tes enfants, hein, pour habiter à Paris. Tu essaies de.
Mais tu sais qu'on a la chance sur France Inter de ne pas être écouté, heureusement, que par les Parigots.
Bah, j'espère. J'espère. Bonjour la France. Mais quand tu vis dans une grande ville, quelle qu'elle soit, hein, Paris, Lyon, etc., c'est quand même des
c'est cher, ouais.
Un petit peu cher. Mais non.
Donc il y a quoi? Alors, y a
la naissance, la séparation. Ça, okay. C'est une certitude. T'as plus du tout envie de vivre dans le même intérieur quand tu t'es fait plaquer ou quand t'as plaqué l'autre. Donc tu refais tout, généralement. Les femmes coupent leurs cheveux et refont la déco, c'est une réalité. Et puis après, t'as vraiment, pour le coup, ouais, une envie d'un seul coup de...
La coloc aussi. Dans le journal, justement, il y a une proposition de coloc.
La coloc, c'est, il va falloir...
S'organiser.
S'organiser, parce que si on vit tous ensemble, là... J'aimerais bien voir à quoi ressemblerait notre baraque, tiens.
Moi, j'en fais une télé-réalité, en tout cas.
Je suis à deux doigts
La déco ne sera pas le plus grand problème.
Non.
C'est vrai que ce ne sera pas le number one.
Il y aura un petit sujet, quand même.
Et qu'est-ce qui est indémodable, du coup? Parce que les couleurs, les objets et tout, ça varie, mais est-ce qu'il y a des pièces ou des couleurs ou des tendances qui restent?
Le bois,
les vrais meubles, ouais. Les vrais meubles que tu chines, les vrais meubles de famille.
Ouais, à ce moment-là, on en est aux matériaux, c'est-à-dire le béton, le bois,
les choses naturelles.
La pierre, le parquet.
Ouais, les choses brutes, en fait.
Mmh. Est-ce qu'il y a des choses, quand même, chez vous, ça a été le cas, que vous ne faites pas vous-même et que vous, entre guillemets, commandez?
Tout ce qui est électroménager, en fait.
Je pensais à la table de la cuisine.
Non, la table de la cuisine, je l'ai fait faire, ouais. Et la table du salon aussi, je l'ai fait faire.
Non, parce qu'elle a l'air, j'ai essayé de mieux la voir, entre guillemets, elle a l'air dingue, cette table.
C'est top. En fait, c'est un artisan qui fait ça.
Avec des rails, c'est ça?
Il récupère des poutres de chemin de fer, des rails de chemin de fer, des parquets de vieilles maisons, du vieux château. Et il te fait la couleur, la forme, la hauteur que tu veux. Moi, j'aime pas les tables basses quand t'es comme ça. Tu sais? Ouais. Tu peux pas manger.
Très basse, quoi.
Ouais, très basse. Tu sais, ça se fait vachement. C'est très à la mode, les trucs où c'est vraiment par terre. Tu
D'accord.
fais, non. Donc, je voulais une table basse un peu haute, en fait. La meuf, pas trop compliquée dans sa tête.
Une table,
ouais, je voulais une table.
Mais pardon, mais alors, pourquoi? C'est assez surprenant, avec la réputation que vous avez de tout faire vous-même. D'un coup, pourquoi vous avez dit, ça, j'y vais pas, je laisse à d'autres?
Parce que c'est tellement bien fait, et je pense pas que j'aurais été capable d'assembler des rails de chemin de fer et de faire ça moi-même, en fait.
Et les traverses de chemin de fer. Il paraît qu'il faut les désinfecter, les traverses.
Ouais, il faut les désinfecter, les nettoyer, les remettre en état, souvent les couper et les retordre.
Hein, Il faut un treuil.
Il faut un petit atelier, quand même, hein.
Il faut enlever la locomotive.
Voilà, il faut virer le train, tout ça.
C'est ça.
Les passagers, s'il vous plaît, descendez.
Le magazine de déco malin, Valérie Damido, ça s'appelle Dami Déco. Il y a aussi un site internet qui va avec des vidéos, des tutos, des explications supplémentaires, des liens, j'imagine, aussi pour pouvoir...
Aller sur ma chaîne YouTube, trouver, ouais.
Oui, et puis trouver les adresses. Tous. Parce que vous recommandez, il y a beaucoup d'objets qui sont conseillés, mais il y a aussi les endroits où on peut les trouver, et pas uniquement Parigot tête de veau.
Non. Non, ça sert à rien. Moi, j'ai quand même. On va pas à Parigot, on s'en fout.
Non, mais c'est important de le préciser.
Puis à Paris, personne n'est propriétaire, donc on peut pas regarder nos murs et tout, quoi.
Chiner, futé, et il y a du coaching pour pimper la déco, pour employer les termes à la mode. On va continuer de parler avec Valérie jusqu'à midi et demi. Elle est notre invitée, mais d'abord, voici Marina.
Oui, voilà. Ça y est, vous m'avez convertie. Paris m'a eu à l'usure. J'ai encore le passeport suisse, mon beau passeport rouge à croix blanche, mais c'est de la poudre aux yeux. Je suis devenue parisienne et ça me désole. La semaine dernière, je me suis entendue dire à un type qui sortait d'un bus dont je voulais également sortir et qui, au lieu de continuer à marcher, est resté devant les portes du bus m'empêchant d'en descendre. Je me suis entendue lui dire à voix haute « Voilà, super, maintenant on circule, top, génial. Allez, sur ce ton, je n'ai ni bonjour, ni pardon, ni excusez-moi, ni voudriez-vous bien, puis-je vous demander de... » Je lui ai braillé dessus, ironiquement, qui plus est, comble de la saloperie. Et rebelote quelques jours plus tard en arrivant dans une gare et les gens sortaient du quai par une porte et faisaient les retrouvailles en famille, mais tu sais, juste devant la porte, bloquant tout tout le monde, idem. Je sors de mon corps et je me vois dire de très haut « Ok, on se dit bonjour un peu plus loin, les amis, merci. » Je suis un monstre, je suis un monstre. Et à la fois, je me demande si parfois c'est pas plus simple de manœuvrer avec des despotes comme moi, de parler à un monstre qui dit « Moi, maman, maman, poussez-vous », plutôt qu'avec les gens qui s'excusent constamment de vivre. Je m'explique, ça fait quelque temps que je me suis mise à réfléchir à la notion du syndrome de l'imposteur. Et même si je sais que c'est un truc bien réel qui arrive à plein de gens, moi comprise, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais en fait, sous couvert d'humilité et de manque de confiance en soi et de ses aptitudes, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une forme d'obsession de soi qui régit ce genre de sentiment ? Tel le gars qui, en descendant du bus, au lieu de circuler de manière fluide, se perd en lui-même, dans sa contemplation, ses rêveries, ses doutes, que sais-je, et qui au final fait chier tout le monde. Est-ce que chez les gens qui doutent, les gens trop humbles, les gens qui se déprécient, il n'y aurait pas aussi un truc un peu qui pompe l'air des autres, putain ? Les gens qui s'aiment pas trop, en fait, tu sais, qui te disent constamment « Non, mais de toute façon, moi, je suis nulle. Non, mais moi, faut pas me demander, je suis bête avec ces trucs-là. Non, mais ça me va, de toute façon, rien me va, je suis moche. Non, mais choisis-toi, moi, j'ai des goûts de chien. » Sous couvert d'être effacé et pas prétentieux, est-ce qu'il prendrait pas de la giga énergie à tout le monde à demander la permission avant de respirer comme ça ? En fait, je me dis, c'est pas si humble de pas s'aimer au final. Ça veut comment dire que t'es bien obsédé par toi-même si t'as le temps de te détester. Et il faut les rassurer sans cesse, les petits fragiles qui s'aiment pas, là. Ça déborde sur le reste du monde. Alors que les gens qui se kiffent, a priori, ils sont autonomes, ils vivent leur vie, ils te chargent pas constamment de devoir leur confirmer que tu les kiffes à chaque fois qu'ils entrent dans une pièce.
Oh là.
Alors évidemment, il y a des limites dans l'amour de soi, hein. Faut nuancer, faut savoir se censurer, se remettre en question. Le côté phrase inspirationnelle de coach de vie, c'est « Crois toujours en toi, ne laisse personne dicter ta route. Si les gens essayent de te mettre à terre, persévère, c'est que tu as raison. » Bah ça c'est très grave, hein, en fait, ça fait des déglingués, hein. Ça c'est clairement ce que s'est dit Adolf Hitler à l'époque, hein. Si Hitler il avait 30 ans aujourd'hui, sa bio Insta ce serait un truc genre « Oublie les rageux, ils critiquent ta vie pour éviter de vivre la leur. » Et son entourage, il serait là « Non mais Adolf, nous c'est vraiment le projet de génocide qui nous chiffonne. » C'est le lot des fissionnaires, Elon Musk et Kanye West aussi, on les critique, mais on leur a dit qu'ils réussiraient jamais à regarder aujourd'hui. Alors après, j'admets qu'il y a aussi du manque de confiance en soi un peu touchant. Il y a des gens qui me touchent, qui n'ont pas confiance en soi, mais que j'aime quand même. Tu vois, typiquement Sean Paul, le chanteur, tout le monde a la référence. Ouais. Bah lui, j'ai juste envie de le rassurer, putain. Ça fait 20 ans, à chaque nouveau morceau qui sort, il se sent quand même toujours obligé de commencer le morceau en nous disant « Sean, hein, Paul, mais t'as envie de dire... » Mais enfin, t'as envie de le prendre par la main, je veux dire, mais Sean, t'as vendu des dizaines de millions d'albums, t'as fait des duos avec les plus grands, on sait que c'est toi, fais-toi confiance, on te connaît, on t'aime, t'as pas besoin de t'annoncer, tu vois. Voilà, tout ça pour dire, les amis, pour vivre heureux, commençons par l'amour de soi et pour vivre ensemble. Mais poussez-vous quand vous sortez du bus, bordel.
Merci,
les amis.
Et donc au paradis latin, le 19 décembre pour la dernière de la dernière,
Absolument, la toute dernière. Imagine si Céline Dion, à chaque fois qu'elle commençait un morceau, c'est Céline Dion.
Chanapan.
Toujours. Ah oui, c'était Marina Rollman in Paris. Ça y est, c'est plus Emily, maintenant c'est Marina in Paris. Ouais. Valérie Damido avec ce magazine de déco. On a dit il y a des visites d'appartements déjà extrêmement bien lookés. D'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus beau chez vous que chez Robbie Williams. Il y a aussi des conseils en matière économique. Moi, j'ai découvert, je ne savais pas que ça existait, en termes d'isolation, qu'il y avait, c'était plus de la laine de verre maintenant que l'on mettait pour isoler, mais des chutes de jeans ou de vêtements ou des vêtements recyclés,
ouais,
qui servent de panneaux à isolation.
Bah, la laine de verre, c'est tellement toxique déjà, première étape. Non, il y a déjà sur Déco, nous on faisait de l'isolation projetée, tu sais, j'adorais cette machine où tu rentrais dans les combles des tas de morceaux de trucs recyclés, effectivement. Mais la laine de verre, effectivement, c'est
toxique. C'était comme un canon qui propulsait.
Comme un gros canon qui propulsait des petites boules de trucs. Hein.
D'accord.
Mais
Et qui s'est collé comment ?
Ben non, qui rentre, qui comble dans les combles.
D'accord.
Boum, boum, boum. Donc, ching, 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 ching. Les couches
qui bouche les.
Exactement.
Qui isole.
D'accord.
Qui isole totalement, mieux que la laine de verre et moins toxique. C'est très toxique, la laine de verre.
Non, mais recycler des vieux fringues ou des chutes de jeans, c'est-à-dire donc aller dans des. Moi, je trouve ça génial comme idée.
Bah, quand tu vois les images horribles de toutes ces fringues qui polluent la mer, qui sont. Alors là, avec tous ces trucs de fast fashion et compagnie là, parce qu'on parle de la déco, mais on pourrait parler des fringues aussi. Je trouve que c'est une super idée dans le prochain numéro d'Ami Déco. D'ailleurs, moi, on va aller rencontrer des filles qui ont monté un truc qui s'appelle Fabrique, qui récupère des fringues et qui en font des meubles. Et je trouve que c'est une super idée de récupérer des fringues, en faire des isolations, en faire des meubles, récupérer toutes ces choses qui finissent sur des plages.
Des meubles en fringues.
Ouais. Et c'est génial. Franchement, c'est magnifique. Je te jure.
Tu t'appuies sur la table, tu t'écroules.
Non, parce que c'est archi comprimé.
Je fais un plumard, mais après.
Morin, toujours la bonne idée. Non, c'est hyper comprimé, c'est vachement bien fait.
Et la déco suivie en 4 saisons, parce qu'il y a aussi des pièces que, sur lesquelles on se concentre en fonction des saisons. On est évidemment plus à l'intérieur en hiver et plus vers la chaleur d'une cuisine ou d'un salon. Et au fur et à mesure, ça veut dire
on va décliner. Ouais.
Au printemps, on va aller où ?
On sera dans le jardin, sur le balcon, on sera...
Ah oui, bah alors tu fais quoi l'été alors ?
Non, je rigole, je sais pas ce qu'on va faire. Là, le prochain, je sais que c'est les salles de bain, parce que ça, c'est un truc un peu important, la salle de bain.
C'est vrai, c'est
la lumière non, dans mais, ta non, gueule le matin quand tu te réveilles.
Vous faites la résidence secondaire ?
Écoutez, vous avez trop d'argent.
Non, mais la salle de bain est une pièce à décorer.
Ah oui, super
C'est pas
important.
Juste une pièce utile.
Non, c'est une pièce à vraiment décorer. C'est une pièce où tu passes finalement pas mal de temps et surtout qui va.
Bah non.
Si.
Bah quand même.
Ok, d'accord.
Moi, on me le reproche assez.
Ah, c'est ça.
Non, mais je veux dire.
C'est pour ça qu'il y a marqué poney ici.
Deux minutes de brossage de dents et 3 minutes de douche, point. C'est pas la peine de passer 3 heures.
Tu te crèmes, tu te masques, tu te gommes.
C'est le premier. Tu vas le matin.
Ouais, puis c'est la première image de toi que tu vois le matin quand même. Faut quand même que ça soit.
Je suis d'accord, ça c'est grave.
C'est un peu compliqué quand même, tu vois.
C'est pour ça qu'on reste pas longtemps.
et qu'on veut pas de lumière. Surtout pas de lumière.
Ah oui, tu t'allumes à la bougie pour laver tes dents, je
mais
comprends.
Mais grave.
On se lave les dents à la bougie, madame.
Mais vraiment. Façon, non, je lave les dents, après je les sors de leur
verre. Tu les remets.
La musique dans la vie de Valérie D'Amido.
Oh, j'ai l'image.
On va... Ça va venir. Hein.
Avant d'accueillir Jean-Paul Dietsch, qui est directeur général adjoint de l'ACPM, pour parler justement de la presse en règle générale en France et des médias. La musique dans la vie de Valérie D'Amido, on va commencer en 95.
Qu'est-ce qu'il était beau !
Oh là là !
On est en 95.
Non, 95, Valérie, oui, absolument. Vous apparaissez pour la première fois à la télévision dans l'émission Les Enfants du Jeu, animée par Arthur. C'était sur France 2. Vous faites notamment équipe avec Valérie Benaïm. C'est vos beaux débuts à la télé.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'on.
Comment vous avez fait déjà pour vous retrouver là-dedans ?
Écoute, on avait un pote qui nous a appelé en nous disant il cherche des gens pour animer des trucs, faire des conneries à la télé, vous voulez pas venir.
Et pourquoi vous ?
Bah parce que le gars s'occupait du public, il avait besoin de gens rigolos dans le public, il nous a dit de venir. Et Valérie, je la connaissais parce qu'on était copines.
Donc vous étiez dans le public à assister à une émission.
Exactement. D'accord. Et il fallait après intervenir.
C'est marrant, c'est comme Bruno Solo qui était aussi dans le public et qui avait été comme ça préempté par Yvan.
Exactement. Et on a fait le jeu. Bon, on n'a rien gagné, mais on s'est bien marré.
Et là, vous êtes dit que la télé c'était un véritable espace pour vous, pour la suite, pour une envie.
Pas vraiment. Moi, j'avais envie surtout de faire du journalisme. Donc, mais pourquoi pas la télé, tu vois. Après, j'ai fait du casting avant de faire quoi que ce soit plus tard dans Exclusif avec Jonathan Lambert et toute la clique.
Oui.
J'ai fait pas mal de casting. Bah oui.
Valérie D'Amido, Jonathan Lambert au casting, t'imagines.
Valérie D'Amido et Jonathan Lambert chez Exclusif, on a bien rigolé, je vais te dire.
Ça devait être dingue.
Mais avant, j'ai fait du casting, on a fait d'autres émissions. Mais la télé, c'est quand même un endroit, en tout cas, quand t'aimes pas trop.
Les gens. Quand t'aimes pas les gens, t'aimes pas les gens.
Non, mais quand t'es pas trop rigoureux sur les horaires, où tu peux travailler tard le matin, mais très tard dans la nuit, en tout cas, c'est un truc un peu plus libre que rentrer dans une administration où t'es un peu.
Oui, parce que vous vouliez être inspecteur de police.
Ouais, ça c'était pour copier mon père, parce que je me disais qu'il était commissaire de police. Moi j'aurais pu être super flic, tu vois, j'aurais relâché tout le monde. je voulais être assistante sociale, mais en uniforme. Quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas mal. Puis après, quand j'ai vu que c'était un peu chiant quand même, je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Non, j'aurais bien pu faire.
Et comment on passe parce que tout à l'heure, on a dit avec Valérie Benaïm, vous étiez candidate du jeu.
Exactement.
Vous ne l'animiez pas. Donc, candidate de jeu à présentatrice ou casteuse.
Eh ben, l'équipe d'Arthur, quand on s'est rencontrés sur cette émission, recherchait des gens pour faire du casting pour une nouvelle émission de télé.
Mais c'est un métier faire du casting. Il y a un savoir-faire, c'est pas juste.
En fait, sincèrement, en toute honnêteté, c'est certainement un métier où il faut avoir un peu de nez pour les gens. Oui. Moi, j'adore les gens. Je pense que quand on en a parlé sur le plateau, ils ont dû se dire, elle aime bien les gens, les rigolotes. Moi, je connaissais déjà les prénoms de à peu près la terre entière du public en 2 secondes et demie. Ils se sont dit, bon, on va lui donner sa chance. Mmh. Ce qui n'arriverait peut-être plus maintenant. À l'époque, je trouve que des gens qui n'avaient pas forcément... justement, comme tu dis, fait des études de casting, on va dire. Tu
non,
pouvais faire plus...
Non, mais... au moins l'expérience, une formation de... auprès d'un autre casteur et d'apprendre le métier. Mais c'est vrai, je,
moi,
là, je suis d'accord avec toi, c'est qu'on
donne plus de chance à l'improvisation. Moi, j'ai grandi à une époque à la télé où tu donnais un peu la chance aux gens...
Ah bah c'est comme ça que n'importe qui s'est retrouvé devant une caméra.
Exactement.
En 2006, vous écoutiez... Même tempo, hein, on est d'accord. Au niveau du tempo, c'est comme Alliance Ethnique.
Non, après, tu sais, ça monte un peu.
D'accord, mais c'est pour danser.
Oui.
La musique, elle est faite pour ça, pour vous ?
Moi, la musique, elle est faite pour rêver. À l'époque, c'est moi qui ai choisi ce morceau parce qu'on cherchait une musique, tu sais, à la fameuse découverte à la fin de l'émission. Et ils avaient mis des trucs genre, ça me faisait chier royalement. J'ai dit, mais non, les gars, ils sont hyper contents, ils ont une nouvelle pièce, c'est la fête. On va mettre un truc happy, les gars. Et ça, bon, moi, je suis quand même très fan de rap et compagnie. C'était un rap gentil, quand même, tu vois, pour M6. Et j'ai dit, non, on va mettre ça. Donc, ça a duré pendant des années.
Des échos, donc, sur M6, cette émission, vous aidez des familles à refaire la décoration de leur maison avec, pardon, les stickers. La mode des stickers, ah, ça, c'est un truc qui, déjà, à l'époque, moi, m'interrogeait.
Leïla, je suis très très contente que tu parles des stickers parce que
la France doit savoir.
La France doit savoir. Oui. Non, n'achetez pas, c'est de la merde. C'était horrible. En fait, le sticker.
Non mais j'ai un souvenir que vous colliez des stickers, par exemple de fausses lampes.
Bah oui, évidemment.
Il y avait un canapé, il y avait un sticker lampe, et je me suis dit mais pourquoi il met pas une lampe?
Bah écoute, le stickers, alors aujourd'hui non, ils ont fait des progrès et c'est un peu de meilleure qualité.
Les grandes fleurs, tout ça, c'est pas possible.
Mais c'est une façon comme une autre de redécorer un mur sans repeindre, tu vois.
Non, Valérie, il faut dire la vérité.
Non, n'achetez pas. Non, mais il y a eu cette grande tendance de tout le monde voulait un coquelicot géant au-dessus de son canapé. Tout le monde voulait un faux réverbère parisien à côté de son canapé.
Après, c'était 2006. Hein.
Voilà, et donc exactement, c'était 2006.
Ouais, enfin, ça va, on ne parle pas non plus de... Il n'y a pas un siècle, quoi. Il y a à peine 15 ans, c'est pas non plus...
Enfin, on portait des leggings.
Exactement.
Tu vois, c'était une autre époque.
Ça se porte encore, hein, les leggings, contrairement aux stickers.
Il y en a, des stickers,
toi, moi,
encore.
Moi, mais...
je porte des stickers.
Elle sort en stickers.
Pourquoi avoir arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un clash?
Il n'y a pas eu de clash, mais j'avais l'impression que, tu sais, comme dans une histoire d'amour, on fait moins attention à toi. Ils voulaient plus passer de prime, donc on tournait des primes, on les découpait en hebdo, donc ce qui était complètement débile, puisque les gens, en deux heures sur l'un prime, il y avait une évolution sur les travaux et la découverte tout de suite à la fin de l'émission. Là, on attendait six semaines pour avoir une découverte.
Ce qui est un peu bizarre, c'est que dans la ligne éditoriale d'M6, quand on voit les émissions de mode, Christina Cordula, ou d'appartement avec Plaza, ou de cuisine, dans le conseil de faites-le, apprenez à faire, et ainsi de suite. Avec la déco, on est complètement aussi dans ce thème-là, un peu de la réalité, un peu d'apprentissage, un peu de conseil, un peu de faites-le vous-même. C'est étonnant. Et vous n'avez pas été remplacé.
Non. Bah, ils ont essayé, ça n'a pas marché, donc ça s'est arrêté. Moi, je voulais qu'on remette des primes, des vrais primes. Je trouvais ça dingue d'attendre six semaines pour avoir une découverte de maison. Ils avaient plus envie. À un moment donné, je sentais pas l'énorme désir du truc. J'ai fait bon bah les gars, je vais y aller quoi.
Ça marchait.
Il y a dû y avoir un problème de résultat.
Parce que tu sais, ça faisait déjà 10 ans.
Ce que j'appelle le résultat, c'est le rapport peut-être entre le coût, ce qui ne nous regarde pas, entre le coût de l'émission et ce qu'elle rapportait peut-être en recettes publicitaires. Mais rarement une chaîne arrête, surtout une chaîne commerciale, arrête s'il y a...
Bah, ils voulaient pas arrêter, mais ils voulaient faire les primes découpés en 6.
D'accord.
Et moi, c'était un truc que je comprenais pas, en fait.
En 2010, justement, le changement, vous écoutiez à ce moment-là... Cœur de pirate et Julien Doré.
Ouais.
Et c'est un rêve de petite fille. Jouer la comédie, Valérie D'Amido, vous vous retrouvez à la télévision dans une série en 6 épisodes, Victoire Bonneau, vous incarnez une CPE.
Une CPE, tout à fait.
Comment vous en êtes arrivée à incarner ce personnage ?
Et ben, un jour, j'ai proposé à Bibiane Godefroy, qui était la directrice de je sais même pas comment on dit le titre, enfin, qui bossait à M6, mais voilà.
Non, une sorte de directrice des programmes, voilà. Et directrice générale, oui.
Exactement, ouais. Je lui ai dit, j'aimerais bien refaire Pause Café. Je sais pas si, non, toi t'es petite, mais.
Véronique Jeannot.
Véronique Jeannot, voilà. Quelle beauté.
Et j'avais tellement envie de faire une émission, un film, fiction. Un truc sur les ados, sur comment gérer cette période de la vie qui est tellement galère. Et bon, ça n'a pas été facile parce qu'en télé, quand tu dis que tu veux faire de la fiction, alors là, t'as l'impression que tu demandes la lune.
Ah bon ?
Ah ouais, ça a été très compliqué. Et puis finalement, comme le premier a cartonné, après on en a fait d'autres. Mais non, c'est moi qui ai été voir Bibiane.
Voilà. Et vous jouez avec votre fille aussi ?
Exactement. Bah, parce que cette petite CPE, elle avait une fille. Et moi, c'est compliqué quand je travaille avec des gens. J'aime bien, soit je les connais d'avant, soit je les aime, soit il y a un truc, tu vois. Donc. Je lui ai fait passer le casting. Et donc, oui. Bah forcément, oui, ça passait hein, dans le casting. Comment te dire engueulez-vous. Dis non. Donc, bon, ça a été parfait. Voilà.
Et pourtant, il faut qu'elle ait une chambre de princesse. Je repense à cette photo de la maison pour que quand elle rentre le week-end, elle se sente comme une princesse à la maison.
Exactement,
c'est mignon.
Exactement.
Non, mais le commentaire de la photo est très mignon. Et puis après, quand on tourne la page et qu'on tombe sur la chambre de Valérie Damido, là, il y a marqué sexe, kiss.
Il y a l'enfer.
Il y a peut-être d'autres mots qui ont été retirés pour la photo. Je veux pas savoir.
Il y a l'enfer en gros.
Il y a l'enfer en gros. Ouais.
Jean-Paul Dietsch, bonjour. Jean-Paul, merci. D'ailleurs, je dois prononcer Dietsch.
Ouais, non, c'est parfait. Bonjour à tous.
C'est parfait.
Dietsch. Dietsch, c'est très bien. On va vous appeler princesse.
Jean-Paul, vous êtes directeur général adjoint de l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. Nous parlions tout à l'heure de la presse écrite et de cette tendance du moment d'avoir en effet des personnalités qui portent sur leur nom, sur leurs épaules, sur leur image, sur leur connaissance, toute la rédaction et la communication autour d'un magazine, ce qui a déjà été le cas, je le disais, des Claude François et des Sardou dans les années 70, je crois, non, je sais pas, ouais. ou Daniel Philippaki, en tout cas dans les années 60 aussi avec SLC. Il faut une marque pour lancer un journal. Je crois qu'il y a Simès aussi qui a son
2017.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est effectivement là on voit ce principe se développer fortement. Beaucoup de collusions avec la télévision, la presse aussi, les médias s'entraident et ça c'est plutôt bien. Donc nouveau.
Mais c'est pas que du 360 degrés. C'est pas simplement. On va décliner une marque sur tous les supports possibles, télé, internet, presse écrite.
Alors si, et c'était un de mes propos, c'est qu'aujourd'hui on parle de presse, on parle de radio, on est ici, mais en fait on parle de marque média. Pourquoi ? Parce que la digitalisation des médias a permis aujourd'hui de rendre les choses possibles là où ça ne l'est pas. La radio de devenir écrite, la presse écrite de devenir parlée, de devenir visible. Et donc du coup aujourd'hui on parle de marque média. Et d'ailleurs certaines des marques de cette belle maison viennent caracoler dans les classements avec des titres de presse en termes d'information générale sur le digital. Et donc franchement aujourd'hui une marque média ça embrasse tous les supports ou quasiment tous les supports. Donc oui à cette collusion, oui c'est dans l'air du temps, mais on peut le comprendre facilement. Des gens qui sont prescripteurs en fait légitimes. On voit que en plus les journalistes en ce moment on le vend en poupe jusque à des niveaux stratosphériques hein, des responsabilités. Donc non c'est très bien. C'est effectivement et on le sent. C'est des gens dont la population je dirais a de l'affect comme on dit et forcément se sentent peut-être plus à l'aise qu'avec des rédacteurs.
C'est bien, la population a de l'affect, c'est une belle formule pour dire populaire.
Exactement.
On est d'accord. La presse écrite se porte bien globalement ou au contraire, au-delà de la crise du papier et au-delà de la crise économique, elle pique un tout petit peu du nez en termes de quantité et de tirage.
Alors, en volume, c'est toujours 3 milliards d'exemplaires par an. Donc en volumétrie...
En France ?
Non, en France, oui.
Mais non.
Ah bah oui. Bah c'est notre boulot, c'est de contrôler la diffusion de la presse. Donc entre autres, un de nos boulots est aussi de mesurer la diffusion.
Sans blaguer.
Ah oui, vraiment, ouais, c'est 3 milliards, ouais. Tout à fait. Okay. Toutes presses confondues.
Il y a à 98%. Plein de presse de niche aussi. Il y a plein de presse.
Oui.
Il y a différents. Il y a beaucoup de presse. Hein.
Alors pour vous donner un comparatif, 3 milliards d'exemplaires vendus chaque année en France. les sites d'information, donc les sites médias, on va dire, c'est 28 milliards de visites par an. Alors, c'est vrai que c'est difficile de rapprocher ça, mais 20 milliards de visites, ça veut dire que vous arrivez sur un site, vous voyez une ou plusieurs pages du site, vous consommez du contenu, et si elle dure 2 heures, ça reste la même visite. En revanche, si vous revenez le lendemain, c'est une seconde,
d'accord,
etc.
Donc, et par rapport à d'autres pays européens, est-ce qu'on est des gros consommateurs de presse écrite ?
Alors, la France, historiquement, a toujours été le pays de la liberté d'expression, la liberté de la presse, de l'aide de la presse aussi et des médias, c'est important. J'ai la chance de présider la fédération des ACPM en Europe, et donc du coup forcément je vois ce qui se passe chez mes compatriotes. C'est parfois plus compliqué, on s'en sort très bien. Et ça, j'ai envie de dire un petit peu de positivisme dans ces temps. On s'en sort très bien parce que la presse et tous les médias ont su se réinventer.
En Italie, en Allemagne, en Angleterre,
c'est compliqué. C'est compliqué.
Il y a moins de presse. Écrite.
Alors, il peut y avoir moins de titres, oui, parce qu'en France, d'accord, on est quand même... Alors, il y a l'Allemagne, la Suisse encore, qui a un nombre de titres existants très important.
Je parle évidemment au prorata de la population, parce que...
C'est difficile de trouver un ratio de comparaison, d'accord, entre les deux. C'est plutôt historique, l'Allemagne, Gutenberg, enfin voilà, c'est la liberté d'expression, hein. La presse n'existe quasiment pas dans les pays où on peut pas parler sereinement. Mais donc du coup, c'est vrai que la France est plutôt bien lotie parce que bon, on a quand même un gouvernement qui se penche un petit peu sur le berceau des médias en général et de la presse. Plus compliqué ailleurs.
On a l'impression maintenant, quand on lance un magazine, et Valérie Damidot en est l'exemple, on se rassure en ayant une personne qui l'incarne.
Alors, forcément, au démarrage, on se rassure parce que c'est des gens qui ont, j'entends des chaînes YouTube, etc., donc des réseaux sociaux aujourd'hui qui drainent beaucoup de monde, qui sont invités à des émissions de radio.
Et donc un savoir-faire et aussi une rédaction.
Moi, c'est ce que je résume par légitimité.
Il faut du fond aussi.
Exactement,
parce que là,
c'est la légitimité.
Pour reprendre le magazine de Valérie Damidot, il y a à chaque page, il y a une information supplémentaire. C'est pas simplement
des grandes photos. Valérie, même si ça serait très bien,
on est d'accord.
Mais effectivement, vous avez parlé de toute l'expérience sur la déco et les avis bien tranchés. Je pense que c'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Ils veulent pas simplement des magazines qu'on pose uniquement sur la table basse pour donner un standing ou une décoration son salon.
Qui cartonne dans ce genre de créneau? Valérie Damidot se lance. Est-ce que Michel Simès, avec ses journaux médicaux, cartonne aussi?
Ouais, cartonne aussi. Ouais.
D'accord.
Ouais, on est plus sur plus de 100 000 exemplaires. Donc oui, c'est une très très belle. Alors c'est 2017.
Si les gens savaient.
Ben non, ils savent.
Si les gens savaient.
Ils savent.
Ils savent. Oui, ça fonctionne bien.
La dernière en date, ça a été Sophie Davant qui a lancé son magazine.
Alors il y a Sophie Davant, il y a Laurent Mariotte aussi. Pour la
Faustine,
cuisine.
Faustine Bollard aussi.
Il y a Stéphane Bern.
Ça marche, tout ça?
Plus compliqué. Certains sont plus compliqués. C'est vrai que il y a pas que la personnalité qui fait que ça marche.
C'est une manière polie de dire que ça ne marche
bien
pas.
Bien sûr, mais c'est mon rôle.
Non,
c'est tellement sensuel. En fait, c'est effectivement important d'avoir une personnalité parce que on s'identifie, elle est légitime. Alors après, il faut pas faire de vagues parce que parfois ça peut être compliqué après. Hein, mais donc ça, c'est toujours plus compliqué l'image qu'on peut transmettre. Mais ce qui est important, c'est de dire. Il faut aussi avoir un thème qui est fort et qui parle aux gens.
C'est pas uniquement
la décoration.
La tête de gondole, il faut aussi qu'il y ait du fond.
Exactement.
On est d'accord. Merci beaucoup Jean-Paul Dietsch d'être venu à ce micro. La tête de gondole, c'est Valérie Damidot. Mais il y a du fond. Il y a du fond. Non, clairement, il y a du fond. Le fond, on va le toucher d'ailleurs. Voici Daniel Morin.
T'avais ça un peu ?
Oh là là, il manquait plus que lui.
Quelle horreur. Mon héros du jour, les amis, aurait très bien pu être ce Britannique malchanceux. Qui a très récemment fini aux urgences, accompagné par des démineurs.
Bah, il a cherché en même temps.
Mais non, même pas. Vous faites fausse route, vous devez confondre. Il y a quelques jours, un homme s'est présenté aux urgences d'un hôpital à l'ouest de l'Angleterre. À son arrivée, les médecins ont immédiatement appelé l'armée et leur service de déminage. Pourquoi ? Eh bien parce que mon presque héros avait dans le derrière un obus de la Seconde Guerre mondiale. Comment s'est-il retrouvé avec l'engin dans le croupion, me demanderez-vous ?
J'ai glissé, chef.
Eh bien, il a tout expliqué aux urgences. Figurez-vous, il était chez lui, tranquillou. pépère, en train de faire du rangement dans sa collection personnelle d'objets militaires. Et d'un seul coup, malencontreusement, il a perdu l'équilibre, il est tombé, et comble de malchance, pile poil sur le but, les fesses en avant. Et comme en Angleterre, on fait le ménage cul nu, le but est rentré. La poisse. Et croyez-moi, je pense que quand on a un obus non désamorcé dans le croupion, eh ben, faut un sacré courage pour marcher jusqu'à l'hosto. On doit se dire, surtout pas de mouvement brusque. On ne sautille pas.
On n'éternue pas.
On n'éternue pas, on ne tousse pas.
Et on prie pour ne pas avoir mangé de chili la veille.
On prie pour ne pas avoir mangé de chili la veille, je crois qu'on est complet. Un comportement de héros en quelque sorte. Il n'empêche que ce brave collectionneur malchanceux n'est pas mon héros du jour.
Ah bon ?
Mon héros du jour, en ce 7 décembre, est un autre Britannique. Oui, mon héros est un homme bon. Un homme généreux qui, pour donner le sourire aux gens dans son quartier, en cette époque de Noël, a décoré l'extérieur de sa maison de façon plus que lumineuse. Il a posé sur sa baraque plus de 30 000 ampoules qu'il laisse allumer toute la nuit. C'est un génie.
C'est écolo.
En cette période de dictature comportementale, d'où cette réflexion de Nagui, en cette période bien pensante, dont les têtes de gondole font chier le monde pour empêcher la surconsommation et protéger la planète, voilà un homme qui, juste pour le kiff, fait cramer 30 000 ampoules. Comme on dit en Suisse, oui mais crois en toi, oublie les rageux. C'est un non-sens écolo, mais il s'en fout, l'ami Rosebif. Tous les soirs, il appuie sur l'interrupteur de son dispositif et balance de quoi éclairer tout le nord de l'Angleterre. Un comportement de résistance que je salue. Un comportement de résistance qui existe aussi un peu grâce au formidable travail du secteur industriel énergétique anglais qui produit et fournit sans broncher notre héros en électricité. C'est pour ça que j'en appelle solennellement. A également félicité Kwasi Kwarteng. Monsieur le secrétaire d'État britannique chargé de l'énergie, je vous félicite. Grâce à l'excellence de vos services, un homme qui n'est peut-être pas un exemple d'économie, mais un humanisme convaincu, humaniste, peut apporter du réconfort à ses proches et grâce à vous. Alors oui, si tout le monde faisait comme lui, beaucoup d'espèces vivantes disparaîtraient très vite dans le monde, mais tant d'Anglais auraient le sourire. Et ça, le sourire des Anglais, ça vaut bien quelques extinctions animales.
Merci, Daniel. Tanguy Passureau, de quoi parles-tu après les infos ?
Je vais vous parler du froid, de la pluie, de la dépression et du virus, mais aussi de sujets solaires, comme Éric Zemmour.
Ah. Le magazine d'Éco Malin de Valérie Damido s'appelle Damideco, et on en parle jusqu'à midi et demi. La bande originale avec les Jacques de Rougedi, Morgane Gagnon, Marina Rollman, Tanguy Bassureau, Daniel Morin et notre invité Valérie Damido. Damideco, le magazine Déco Malin de Valérie Damido. On parle de la déco, évidemment. Tout à l'heure, on a parlé des matériaux, de la peinture, de la couleur. Vous avez parlé de l'isolation aussi, avec des idées de recyclage, ou en tout cas de ne pas gâcher, de ne pas jeter des restes de fringues ou de vêtements ou de jeans. La lumière, on en parlait avec le héros du jour de Daniel Morin en Angleterre. La lumière aussi, c'est-à-dire que maintenant, on traite tout avec des LED, c'est-à-dire des basses énergies, basses consommation.
Bah c'est mieux. À un moment donné, on nous avait expliqué qu'il fallait prendre ces grosses ampoules dégueulasses blanches là, qui soi-disant étaient moins polluantes. Tu parles. Heureusement que des gens se sont un peu penchés sur la question pour dire bah non, en fait, ces ampoules sont très polluantes et très LED.
Mais ça veut dire que la déco justement prend en compte maintenant pas uniquement le plaisir de l'œil et le changement, mais aussi toutes ces considérations économiques et écologiques.
Bah il faut. De toute façon, déjà que c'est compliqué d'avoir des décisions dans les hautes sphères du gouvernement pour que les choses bougent. Alors si dans la déco comme le reste, on peut avoir un peu des idées pour consommer moins, gâcher moins, c'est quand même une avancée un peu sympa, quoi.
Donc la première chose à faire est de garder ce que l'on a et de le relooker.
Ah bah moi je pense que c'est le mieux. Après évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des meubles de famille, etc. Mais va dans des vide-greniers, va chez des brocanteurs,
achète.
Je ne juge pas les gens qui volent.
Non, chez Emmaüs, exactement.
Nous, moi, j'achète beaucoup de choses chez Emmaüs pour faire les tutos et j'adore ce qu'ils ont. Il y a quand même des façons de moins dépenser et de mieux consommer en décoration. Il y a des peintures maintenant qui font hyper gaffe avec les solvants. Avant, il y avait que de la glycéro, etc. Maintenant, on essaye de faire attention à la composition des peintures, des bétons, des enduits. Et je trouve que c'est vachement bien.
Et les sols, parce que là aussi, c'est relativement difficile de s'aventurer à changer des carreaux encore, ça peut être facile. Un parquet, c'est impossible de le faire soi-même.
faut un petit peu de technique quand même.
Bah, ouais.
Ouais, si c'est un parquet flottant, a fortiori, parce que le parquet flottant étant une fausse bonne idée, parce que c'est vraiment le truc le plus difficile à poser.
C'est un truc de connaisseur, ça.
Ouais, le parquet, ouais. C'est un peu compliqué. Le truc le plus simple étant évidemment tout ce qui est sol en vinyle. Moi, je serais tenté de dire, ou le carrelage, parce que c'est pas très dur non plus le carrelage. Moi, je ferais bien tous les sols en béton ciré, là, et hop là, comme ça, c'est plus sympa, mais
ce qui demande, parquet, ce qui demande le parce que est-ce que dans vos réflexions aussi, il y a l'entretien, c'est-à-dire qu'il y a la facilité à poser, mais il y a aussi comment vivre avec pendant des années.
Alors après, ça dépend si t'es très maniaque, très rangé, suivez mes regards. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont faciles, tu vois, par exemple les carreaux ciment, plus ça vieillit, plus c'est beau. Le parquet, moi je...
Mais ça donne une espèce de patine, mais c'est ça qui est beau aussi.
C'est très beau.
C'est-à-dire quand ça passe et quand ça donne
exactement.
Un sentiment de déjà vécu.
Ouais.
Elle vous emmène chez elle vous emmène chez Robbie Williams, c'est chic, chez son amant. Elle vous emmène,
oh là là.
Elle vous emmène vers un autre chez vous, c'est Valérie Damido dans cette déco malin. En tout cas, moi je... sincèrement, j'ai trouvé ça passionnant parce que ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les possibilités, même si on se dit, ben non, j'irai pas là-dessus, mais ça ouvre la tête, l'esprit, et ça peut donner des idées, ou en tout cas, on les met de côté pour la suite, comme cette porte de chambre qui, d'un coup, une fois repeinte, une fois rajoutée un petit côté, je sais pas, Mondrian, j'ai envie de dire, avec des couleurs multiples, comme aussi l'idée de ne peindre, de repeindre une chaise, mais pas jusqu'en bas.
Non, pas jusqu'en bas.
Pas jusqu'au bout des pieds pour que les pieds en bois restent, marient avec le carrelage.
Oui, et puis que ça soit, y a des trucs visuels qui sont plus intéressants que d'autres. Comme le papier peint, très longtemps, pendant les années 70, on en mettait partout. Ensuite, il y a eu les années 2000, on mettait un lait. Là, on revient à des papiers peints panoramiques. D'ailleurs, on en parle avec Christophe Cosiel, qui est pour moi le génie du papier peint. On fait maintenant des grands décors entiers qui sont redevenus panoramiques. Un jour, peut-être que ça redeviendra à la mode. Moi, j'ai eu ça dans ma chambre. Je sais pas si... Non, toi, t'es trop petite.
Morgane, au revoir.
Non, mais c'est un bébé. Mais toi, t'as dû avoir ça. Moi, j'avais un coucher de soleil avec un palmier, là. Un truc horrible. C'était des posters géants.
Et oui, moi, j'avais ça sur la porte de ma chambre. J'avais un poney.
Voilà, non, bah, tu vois.
Qui était à l'écurie.
Voilà. Et donc, là, ça va revenir peut-être un jour.
C'est énorme.
Un vrai poney.
C'est là où on se rend compte de la chance que l'on a, nous, de ne pas avoir vécu tout ça.
Wow, c'était super.
Valérie Damido est notre invitée jusqu'à midi et demi. Voici Monsieur Tanguy Passion.
Hier, en invité, nous avions Cyril Dion, un militant écologiste, et je déteste ces gens parce qu'ils nous ouvrent les yeux sur la réalité. Alors moi, je suis adepte du déni. En cas de panne sexuelle, j'accuse les perturbateurs endocriniens. Si dans le train, un mec surgit avec un couteau en hurlant, je me dis, tiens, ils doivent tourner Top Chef. Ce candidat a certainement raté sa blanquette. Pour me soustraire à la violence du monde, j'ai même vécu 2 ans dans un Disney Store. En sortant, j'avais qu'une envie, de devenir une princesse. Donc je suis allé à Monaco, raté. Dès la fin de notre première nuit, le prince Albert m'a plaqué. Soi-disant, j'étais incapable biologiquement de lui donner un enfant caché. Enfin, c'était bien la peine que je me déconstruise en tant qu'homme. Donc je suis dans le même état psychique qu'un islamophobe qui adore le foot et réalise que les 3 buts du match sont dus à Benzema. La vie est sordide, il fait un temps de chien, il y a le virus. Hier dans Boomerang, Angèle a repris Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, ce qui est un des 7 signes de l'apocalypse selon les Mayas. La campagne électorale, n'en parlons pas. On disait on va être peinard, ça va être un duel Le Pen-Macron, Mémère et Petit Bout de Chou, ils vont débouler au deuxième tour dans leurs chaussons. Et là, paf, Éric Zemmour. Mais quelle violence! Dans son meeting, un monsieur l'a bousculé. Il s'est quand même fait mal au poignet. Il a la vie d'un ado qui viendrait découvrir l'existence du catalogue Marc Dorcel. Et là, comme directeur de campagne, il a pris un militaire, un ancien général. Ah bah ça va dépoter, hein! Il va le faire lever à 4h du mat. À midi, il aura déjà fait 700 pompes. Dans 2 mois, Zemmour, physiquement, c'est Vin Diesel. À la suite de sa campagne, ça va se faire au fitness park. Enfin, le prochain bobo au poignet qu'il a, le général va prendre l'autre poignet, lui briser, lui dire voilà la bichette. Comme ça, t'auras une vraie raison de pleurer. Mais moi, jamais, je ne prendrais de général. Si j'étais en campagne, je prendrais Carla Bruni. Elle est douce, on boirait des chai. Regardez Sarkozy, il était tout vénère, elle l'a transformé en bonze. Parfois, Pécresse appelle Sarko pour 2-3 conseils. En fond sonore chez lui, il a entendu Bob Marley et Carla qui lui dit « Nico, mon amour, as-tu pas vu la boîte à shit ?» Tout est sombre, déprimant, la campagne, mais aussi le virus, ce Covid à la con, dont on n'arrive pas à se défaire. En mars 2020, on pensait qu'on en avait pour 3 semaines, on était innocents, 67 millions de blanches neiges. Et ça nous fracture. Regardez les non-vaccinés, traite les vaccinés de collabos. En retour, se font
sont traités de complotistes au lieu de se rappeler nos points communs à tous, qui sont le désamour de Faudel et la passion pour le Xanax. Eh bien, on se déchire. On se déchire bêtement parce que 3 doses, c'est rien. C'est ce qui a longtemps séparé Georges Clooney d'un chèque de 4 millions versé par Nespresso. Et hier, j'avais envie d'aller mieux. Donc j'ai lu la presse. Ah là là, mal m'en a pris, comme disent les millennials. Je suis tombé sur un article de West France intitulé « La prochaine pandémie pourrait être pire », prévient une co-créatrice du vaccin AstraZeneca. Donc je me suis dit, pas de panique. Il y a écrit « pourrait être pire », conditionnel. Souvent, en fait, ça se passe pas. Exemple, Emmanuel Macron pourrait annoncer un plan de sauvetage de l'hôpital public. Bon. Ensuite, cette dame est co-créatrice. Alors déjà, les co-quelque chose en général sont des losers. Un co-président, ça veut dire que vous n'aviez pas le potentiel pour être à la tête du truc tout seul. Co-responsable, pareil. Même les coléoptères sont moins bien qu'une mouche. Enfin, AstraZeneca, tu parles d'une référence. C'est le vaccin dont personne n'a voulu. Enfin, j'ai un ami qui a préféré se faire injecter du jus de viande plutôt que ça. Ça l'a protégé contre les véganes. Mais malgré le peu de crédibilité de la personne, bon, j'ai lu l'article. Et là, Sarah Gilbert, cette dame, a dit à la BBC, alors la BBC, c'est comme France Télé, mais sans Sophie d'avant. Donc, ils se retrouvent avec des tonnes de vieux objets pourris sur les bras. Hein. Et ils disent qu'il y a, elle dit la dame, qu'il y aura une autre pandémie un jour. Bon. Déjà, le fait de pas avoir de facteur temps nous relaxe un peu. Hein, si c'est dans 70 ans, on sera plus là. À part Françoise Gisbert, dont la tension artérielle l'aura maintenu en vie jusque-là. Elle ajoute, ce virus, donc le prochain, pourrait être plus contagieux ou plus mortel ou les deux. Super! Elle nous plombe, celle-là. Moi, je comprendrais que son mec traverse la Manche à la nage pour aller rejoindre Laurie Tillman, qui, elle, est solaire. Hein, la preuve, parfois, à la télé, elle reçoit Danny Briand et Chimène Badi. Eh ben, elle sourit quand même. Hein, alors que, clairement, on est sur un bizutage. En fait, Danny Briand est une création de Satan. En gros, dans le propos, donc il n'y a rien d'angoissant. En fait, juste une scientifique qui nous dit, les gros, si vous voulez pas clamser sur le 120e variant, il va falloir lâcher des sous pour la recherche. Elle fait son job, quoi. Mais alors, pourquoi titrer ? Je recite, une prochaine pandémie pourrait être pire, prévient une co-créatrice du vaccin AstraZeneca. D'accord, pour qu'on clique. Ça va, je connais le web. Enfin, moi aussi, je commande des choses dont j'ai aucun besoin sur Amazon. Vous étiez en train de regarder votre première vidéo de chat, que j'étais déjà sur les porcs épiques. Le problème, en fait, je vais vous dire, c'est l'angle anxiogène des titres d'articles. Moi, là-dessus, j'aurais titré « Une pseudo-experte d'un vaccin sous-côté nous gonfle avec ses prévisions de merde ». C'est aussi vendeur.
Là, j'aurais cliqué.
Voilà, on a envie de cliquer et on n'est pas en train de se dire en permanence qu'on est foutu. Donc, énervé, j'ai coupé Internet, j'ai allumé la télé, j'ai mis Energy 12 parce que j'avais envie de me vider la tête. C'était soit ça, soit la drogue, mais Energy 12, c'est gratuit. Hein. Et je suis tombé sur une émission sur Noël. Donc, génial, ambiance lutin, je me suis dit, ça va me faire du bien, quoi. Tu parles, Karl. Au bout de 2 minutes, je me suis dit, c'est bizarre, il y a pas mal de sang. C'était l'émission Fête de Noël sanglante par Jean-Marc Morandini sur un tueur en série, Bruce MacArthur, qui dans la vie était Père Noël de centre commercial. Ah. Il bossait 15 jours par an, le reste de l'année, il tuait des gens. Mais parce qu'il n'était pas assez occupé, en fait. Chez nous, c'est pareil, sans le passage aux 35 heures. Émile Louis, il faisait pas tout ça. Martine Aubry a fait énormément de mal à la France. Hein. Bref, tout ça est beaucoup trop violent. Je veux du mieux, du beau, un jour, enfin, s'il vous plaît, par pitié.
Wow. Merci Tanguy. Tanguy qui a choqué Marina sur Danny Briand, je tiens à le dire. Quand même.
Immense fan devant l'éternel de Danny.
C'est clair.
Voilà. Ça arrive à des gens bien.
Chacun a ses petits vices.
Ça, c'est un gros vice.
Et si vous avez un gros vice de Tanguy Pastureau, alors... Folie Bergère à Paris ce lundi.
Valérie d'Amido, d'Amideco, le magazine Déco Malin, moins de 5 euros et ça sera toutes les saisons. On en parle jusqu'à 12h30 pour chiner futé, pour se coacher aussi sur sa propre déco, mais d'autres événements culturels arrivent cette fois. Leïla Kadou.
On va parler d'une saga littéraire qui va avoir le droit à une nouvelle trilogie.
Millennium.
Harry Potter. Ouais, bien c'est vu. Millennium de Stieg Larsson, qui avait traité donc la première trilogie. Ensuite, un autre auteur était.
Oui, mais il est mort. Oui, c'est ça. Oui.
Voilà, il y a un autre auteur qui avait signé les trois derniers pour arriver au nombre de 6.
C'était
et là,
festif.
Il va y avoir un autre auteur.
Il paraît que c'est moins bien.
Qui va s'y coller. On ne sait pas encore qui va écrire cette
dernière.
Non,
mais déjà celui qui avait remplacé
les tomes Stieg. 4 à 6 étaient considérés comme un peu moins bien de Stieg Larsson.
Stieg Larsson. Ouais.
Quelle lectrice êtes-vous, Valérie d'Amido ? Qu'est-ce que vous aimez
lire ?
De droite à gauche. moi, je lis beaucoup de polar, justement. Ouais. Beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'adore tout ce qui est.
Et Millennium, vous avez lu ?
Millennium, je l'ai lu, mais effectivement, les 1, 2, 3, c'est top. Après, ça part dans n'importe quoi.
Ça s'essouffle. Ouais.
Donc voilà, j'aime bien Fred Vargas, j'aime bien tous les Henning Mankell, tous les polars du Nord, en fait. J'ai l'impression que je voyage, tu sais, que j'ai pris l'avion et que je suis en Suède ou en Norvège. J'aime beaucoup les polars, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. beaucoup, mais je lis beaucoup.
Ouais. Et en ce moment, vous lisez quoi ?
Ah bah là, en ce moment, pas grand-chose, parce que je répète mon spectacle, donc je lis mon spectacle, je me lis moi-même.
Ça sera en janvier, c'est ça. Valérie s'expose ou s'explose ?
D'Amido s'expose, ouais.
C'est ça. Et ça sera où ?
On démarre le 29 janvier à Auray. Et puis après, on fait, je crois, 45 dates dans toute la province.
D'accord.
À qui Toulouse, à qui Marseille, à qui Nice, à qui Rouen, à qui Caen, à qui et voilà. Alors,
c'est quoi le pitch, quoi,
ouais, c'est un stand-up.
C'est un stand-up. Je raconte un peu mon enfance. Je partage mes conneries. Je parle un peu de déco parce que c'est quand même une émission qui a marqué les gens.
Ouais.
Et puis, voilà.
Alors, la déco va même jusqu'à l'affiche, vous êtes carrément nu.
Je suis à poil avec mon pote Regman qui fait des affiches pour le théâtre et le cinéma, qui s'est dit, bon bah écoute, c'est bien, si t'es à poil, je vais te dessiner sur les nichons et on va dessiner un truc comme si tu t'étais auto-dessiné.
C'est ça.
Donc, ça
reste de la déco.
Je suis à poil, mais je suis quand même bien peinte. Hein.
se révéler. Quoi.
Exactement.
Voilà. Autre question, on parle de Kevin Spacey. Il a été condamné à rembourser 31 millions de dollars. Mais à qui ?
Netflix ?
Bah, au producteur du...
Non, aux gens qu'il avait...
Au producteur de House of Cards,
absolument,
non,
à la société qui produit House of Cards.
Manque à gagner parce qu'ils ont été obligés d'arrêter la série.
Et ouais, ils ont dû réorganiser toute la sixième saison, la ramenant de 13 à 8 épisodes et tout ça, après... la sortie de l'acteur, enfin de la série, parce qu'il a été accusé d'harcèlement et d'abus sexuels. Mmh. Est-ce que vous êtes une fan de série aussi ?
Est-ce que vous avez commis du harcèlement ?
Du harcèlement ? Non, alors ça je sais pas bien faire. moi je te dis plutôt les trucs dans la tronche comme ça tout de suite. ouais, je regarde pas mal de séries. Bah le confinement nous a bien conditionné à regarder des séries, donc effectivement, c'est là je suis sur Succession, c'est la saison 3.
Oui,
c'est
super.
La meilleure série du monde.
C'est attends, c'est pas fini.
Ben non,
il en reste deux, je crois.
Mais je suis en train.
Oui, mais on dit rien.
On dit rien.
On n'a pas encore commencé.
Non,
pas tous les épisodes.
Je connais 9, moi.
Oui, mais moi j'ai commencé. Pardon.
Morgane attend que la saison 3 soit totalement en ligne pour binger les 9 épisodes d'un coup.
C'est ça, les regarde 4 par 4.
Je regarde 4 par 4.
Moi j'essaye de les regarder à l'ancienne.
Non, alors moi chaque semaine je regarde un épisode.
Ah, moi aussi, j'adore, c'est trop bien.
Ça y est,
moi j'ai pas encore regardé le premier épisode de la saison 1, donc
tellement être à ta place.
Tu vas tellement aimer cette
chaîne. L'avoir vu.
Noël.
Ouais, enfin, les premières saisons étaient quand même mieux que la troisième, si je peux me permettre. Mais c'est souvent, malheureusement, le cas dans les séries. Et puis alors, Casa de Papel, pareil, quoi. C'était
ouais, c'était bien la une. Hein.
Plus ça va. Moins ça va. Justement, tiens, à propos de saison, vous présentez avec Juan Arbelaez la quatrième saison de Mon Plus Beau Noël. C'est sur TFX.
Ouais.
À 18h50, du lundi au jeudi, où l'idée de s'inviter les uns chez les autres, pour partager une soirée de Noël inoubliable. Vous préparez le tome 2 de la bande dessinée avec
Roxane. Exactement, oui. Il sortira, je pense, au printemps.
La terrible époque des soupules acryliques.
Ouais, là, ça va être. On ne sait pas encore, on est sur les années 80, donc on est sur la plateforme shoes, le glitter, les épaulettes, la choucroute. Les trucs tellement sympas des années 80, quoi.
Et puis donc, ce premier One Woman Show que vous gardiez depuis longtemps, avec qui l'avez-vous travaillé, l'avez-vous écrit ?
Alors moi, je l'ai écrit toute seule, et après, j'ai un punchliner qui s'appelle Fabien Delettre, et mon metteur en scène qui s'appelle Éric Théobald, qui bosse avec François-Xavier Demaison, mais qui fait aussi Affaires Sensibles, etc., plusieurs autres choses, qui fait aussi Sandrine Saroche, aime bien lancer des vannes, donc on travaille aussi beaucoup ensemble. Mais ça faisait effectivement très longtemps que j'en avais envie. J'en avais parlé il y a très longtemps avec Jarry. J'avais fait quelques premières parties avec lui. Et puis, il faut que ça mûrisse. Il faut que ça...
Alors, mais l'envie vient de l'envie de jouer, comme l'actrice dans Victor Bonneau, ou c'est l'envie de se marrer, ou c'est l'envie aussi de prendre des risques et de faire quelque chose de nouveau ?
C'est un peu tout ça mélangé. Moi, j'aime bien jouer sur scène parce que j'aime bien rencontrer les gens, moi. Donc, je trouve que la scène, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, l'envie de jouer, l'envie de me marrer, l'envie de faire autre chose. Et puis, je fais pas grand-chose à la télé, donc j'ai envie de te dire, moi, je suis une hyperactive, donc il faut que je fasse des choses. Donc, que ce soit d'Amis Déco ou la BD ou le spectacle, il faut que ça bouge, quoi. Donc,
alors, le pas grand-chose à la télé, ça veut dire que vous aimeriez en faire plus ?
Pas forcément, mais en tout cas là c'est une réalité. Je fais mon plus beau Noël et les plus belles vacances. Je suis pas sur un truc au quotidien occupé déco. L'avantage c'est que bon bah je savais ce que je faisais H24 7/7.
Il y avait aussi peut-être l'inconvénient à l'époque. Est-ce qu'il y avait pas justement trop de un emploi du temps surchargé où vous n'aviez le temps de rien faire d'autre que l'émission d'M6.
Exactement. Donc ça c'était aussi
donc,
compliqué.
Donc vous êtes jamais contente.
Non, je suis contente. Attends, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je te dis le spectacle il est venu aussi. Ouais. Que comme je suis un peu hyperactive, il faut que je m'occupe quoi. Donc j'aime bien. Et puis l'idée d'aller sur scène, c'est quand même le truc le plus dingue, non ? Tout le monde est sur scène là. Enfin
pas tout le monde. Non.
Mais c'est pas eux qui vont me contredire. Ouais. C'est quand même un truc de fou d'aller raconter des conneries pour faire rire les gens. C'est un des trucs les plus jouissifs de la Terre.
Sûrement, et le plus dangereux aussi, parce qu'il y a une vraie prise de risque.
Bah, non, mais de se faire tirer à vue dessus. Oui, de toute façon.
Non, mais il y a à quel moment le trac, la peur ou l'angoisse est dominé par la confiance et l'envie.
Alors le trac sera toujours là. Après, j'ai toujours un peu le côté positif de me dire il y a quand même des gens bienveillants et on va pas tous se faire tirer à vue tout le temps. De toute façon, tu contenteras jamais tout le monde.
Non, mais vous attirez plutôt la bienveillance que l'envie de vous rentrer dedans, ça c'est sûr.
Après, sinon tu fais rien. Tu vois, moi j'ai jamais trop écouté. Sinon j'aurais rien fait. Moi, une des premières interviews que j'ai eues, c'était alors Valérie Damido, faire de la télé et cartonner en audience avec un physique de radio, c'est pas trop difficile.
Donc
si j'avais tenu compte...
Mais qui a dit ça?
Je ne le dirai pas, mais il se reconnaîtra.
Oh là là, Roger, il exagère quand même.
Déjà, c'est un mec.
Ouais, c'est un mec.
Ah bah oui.
Et si tu veux, ça aurait été une fille, ça aurait été gravissime pour moi, mais bon, bref.
Bah non,
encore plus gravissime, mais bon.
Il y a des méchantes. Hein.
Ouais, non, on peut pas en tenir
donc,
davantage
si
rigueur à une femme.
T'imagines, si j'avais retenu ça... J'aurais jamais rien fait, j'aurais arrêté tout.
C'est hyper violent.
Est-ce que le travailler avec sa fille, ce qui a été le cas pour la bande dessinée, ce qui est le cas dans le magazine Déco Malin, veut dire que vous voulez en faire aussi plus avec Roxane, la fiction aussi, Victor Bonneau, donc elle est aussi présente souvent dans vos projets.
Bah, ma fille ou mon fils, hein, tu sais, avant le confinement, j'avais fait une pièce de théâtre avec mon fils qui jouait dedans. Bon, le pangolin nous a tués, on n'a pas fait de tournée. Mais moi, j'aime bien bosser en famille avec les gens que j'aime. Et donc, plus je suis avec eux et plus je partage de choses avec eux, et plus je suis contente. Donc, c'est important pour moi d'être avec des gens que j'aime, donc qui fait mes enfants.
Ce qui fait toute la différence entre vous et moi, vous aimez être en famille avec des gens que vous aimez. Moi, j'aime bien travailler avec des inconnus que je déteste. Le magazine des Comme Malins.
Et qui te le rendra.
Quelle réciprocité.
C'est important.
Je sens beaucoup l'amour autour de cette table.
C'est essentiel.
Ça sent fort, mais c'est pas de l'amour.
Vous savez.
Dernier
point, ce qu'on a remarqué avec Leïla, votre souhait de déménager. Alors, est-ce que c'est pour refaire de la déco, c'est pour refaire un appart, refaire une...
Elle ne va pas aller n'importe où en plus.
Non, je vais aller dans la plus belle ville de France, chez Leïla, qui s'appelle Angoulême. Oui, parce que j'en ai marre de... Moi, je suis pas une
parisienne.
Une parisienne déjà. J'ai grandi en banlieue. Je suis venue à Paris sur le tas. Et puis j'ai envie de me casser, quoi, tout simplement. Et c'est pas que le confinement. Ça fait très longtemps que c'est un vrai souhait.
Est-ce que ça, c'est pas une tendance déco justement aussi, c'est-à-dire quitter la ville? Non, mais ça a été le cas avec le confinement. Alors c'est vrai que le confinement poussait à avoir des terrasses, des balcons et des jardins pour ceux qui en avaient les moyens. Il y a eu un mouvement comme ça. Puis il y a même beaucoup de villes en province qui se remettent à vivre. Et tant mieux parce que la population revient. Le télétravail permet également aussi de faire beaucoup plus de choses chez soi sans être obligé d'être présent dans les
Limoges. Là, actuellement, ils sont déjà 4 millions. Hein. C'est
énorme. Alors, je sais pas si j'irai vivre à Limoges, que je ne connais pas.
Et puis l'âge aussi, en vieillissant, on a
Bien sûr.
D'un confort autre.
Et puis j'ai envie, d'être, moi j'adore jardiner, faire des trucs en extérieur, me balader, faire du vélo, du cheval.
Et puis ça va libérer des jardins des Suissesses qui veulent venir
s'installer à
Paris. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour les actionnaires de chez Paradis Pastel, qui possèdent 15 usines de confection de peinture spécialisé dans les couleurs pastel. Actionnaire dans les dividendes ont chuté de 80% suite à l'intervention de Valérie Damido dans cette émission.
comment 93 87 Bon, j'arrête là. Désolé pour tous les Parisiens et Parisiennes qui aiment bien faire une petite pause de temps en temps au milieu d'une porte, sur un trottoir trop étroit, en haut d'un escalator. Marina vous a stigmatisé, elle vous a fait comprendre que vous étiez des casse-couilles. Et ben vous savez quoi? Elle a raison, bougez-vous, restez pas dans le passage et considérez que vous vous en sortez bien avec Marina. Moi, je vous marche dessus. Désolé pour tous les collectionneurs d'obus de la Seconde Guerre mondiale qui aiment faire le ménage tout nu et qui parfois aiment ramasser certaines pièces sans les mains. Vous vous êtes senti stigmatisé vers 11h57. Ok, pardon, je m'excuse. Si ça se trouve, c'est cool. J'essaye ce soir, promis, je raconte ça demain. Désolé pour Robbie Williams, enfin, dont la déco était stigmatisée par Maggie. Les murs trop hauts, trop de cadres, trop chargés, goût de chiottes. Du coup, Nagui, c'est mort pour avoir Robbie dans un taratata. Du coup, je t'ai sauvé la mise, je t'ai sauvé la mise. Ouais, ouais. On m'a dit oui pour une spéciale artiste en manque de confiance. Artiste qui sait qu'il faut qu'il se représente à chaque chanson. Sean Paul, voilà, ça va être super, Nagui, c'est cadeau. C'est pour moi.
Merci. La patine, la déco, les bonnes idées, malicieuses en tout cas, avec aussi toujours cette pointe d'humour signée Valérie Damidot. Le magazine Déco Malin de Valérie Damidot s'appelle Dami Déco et c'est en vente libre. Merci Valérie d'être venue à ce micro. Demain, Michel Blanc et Olivier Barraud seront nos invités. Ce sont les Tuches, évidemment, au programme. Bonne journée, voici les carnets de campagne. Merci.